suis ravie de vous introduire Christine Berthet, CSD, et qui justement va vous plateforme, la plateforme HAL que l'on a en France, qui est une plateforme de dépôt. Et comme on est déjà un tout petit peu... on a un petit peu décalé dans les temps, mais c'était prévisible. Je n'en dis pas plus. De toute façon, tous les détails sont sur le site web de la conférence que vous connaissez. Vous avez, justement, pour chaque conférencier, vous avez le détail de ces sessions. Et donc, je donne tout de suite la parole à Christine.
Bonjour. Alors, je lance Jupor. Alors, moi, je vais vous parler d'archives ouvertes et de politique autour des archives ouvertes. Bien sûr, ces projets s'inscrivent, vous l'avez compris, on a eu d'excellentes démonstrations et explications en intervention. On intervient dans un modèle économique qui est assez particulier, puisqu'on peut payer deux ou trois. Donc, l'auteur est payé. On ne vend pas son produit. Et assez souvent paye pour le publier ou plutôt son institution. L'éditeur ne paye pas les valeurs mises en forme, c'est même pas la mise en forme, c'est même de plus en plus souvent le cas. Et le lecteur n'est pas l'acheteur puisque c'est en fait la bibliothèque qui, elle, achète via des abonnements. Donc si on résume, l'État achète aux éditeurs ce qu'il leur a fourni gratuitement. Donc on est dans un contexte étonnant d'un point de vue évoqué ce matin, la déclaration de Budapest concernant l'initiative en 2002, propose un modèle en fait, appelé le libre accès ou l'open access, où en fait on peut accéder librement, gratuitement, immédiatement à la publication scientifique, aux résultats en fait de la production scientifique. Alors c'est démarré bien avant en fait avec... notamment un serveur d'archives ouvertes Archive. Hein. Les archives ouvertes, c'est simplement un serveur où l'auteur va venir déposer, après avoir rempli des métadonnées, des champs lui permettant de décrire sa publication, va venir déposer également le fichier de sa publication, de son document, en fait, des résultats de l'article ou de la communication ou de sa thèse, puisqu'en fait, les scientifiques peuvent être acceptés sur un serveur d'archives ouvertes. Alors, juste avant, Jacques Laffey a évoqué la BSN, donc je voudrais juste préciser en fait que c'est une très grande infrastructure hein, qui est inscrite dans depuis 2008, je crois, du ministère. Et les enjeux en fait de la BSN sont exactement les mêmes de ceux du libre accès dans la mise en œuvre d'une politique scientifique commune qui va permettre de consolider les moyens, notamment pour que les chercheurs forme numérique, en fait que vous avez eu juste avant sur le BOAI, de diffuser ces résultats à la communauté scientifique internationale ainsi qu'au grand public, également humaniste. Et une notion qui n'a pas encore été abordée mais qui est extrêmement importante dans le monde du numérique, assurer de manière transparente une on sait conserver le papier. Enfin, quand les bibliothèques ne brûlent pas, on sait faire. Ça peut durer des siècles. Le numérique, on ne connaît pas encore sa pérennité. On ne sait pas dès au problème de vouloir ouvrir un vieux fichier qui était sur une vieille disquette, qui était sur votre ordinateur, Donc en fait, vous n'avez plus accès à l'information. Donc un des enjeux qui est extrêmement important, c'est justement aller au-delà de ce problème technique, le résoudre et faire que dans 100 ans, 200 ans, on aura bien toujours accès à ces documents produits uniquement. Alors, à la suite des chantiers mis en œuvre dans le cadre de la BSN 4, a été signée une convention, donc moi je vous parle d'abord de politique, hein, là au niveau de la politique nationale, une convention de partenariat interétablissement a été signée à l'Académie des sciences, une belle cérémonie, et en fait l'ensemble des établissements pour faire de HAL une plateforme commune et partagée, communauté recherche. Et les signataires, hein, la conférence des présidents d'université, donc qui s'engageait pour les grandes écoles, et puis 22 établissements de recherche ont signé cet engagement. Alors également, cette convention se situe aussi dans un contexte en juillet 2012 aux différents États membres de la communauté de définir une politique en matière. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement Une idée de farfelus qui disent c'est vraiment cool, on va tout mettre en ligne, tout va bien se passer. Il y a aussi des vraies stratégies au niveau en fait des gouvernements et des États. Donc là, vous pouvez trouver en fait les liens pour auxquels je fais référence. Alors également dans cette convention de partenariat en faveur des archives ouvertes, les membres à favoriser le dépôt en archives ouvertes et de mettre en place une politique de communication, de formation auprès de leurs chercheurs afin de développer ce mouvement-là. Donc voilà, il y a une vraie lettre autour du dépôt en archives ouvertes. Pour continuer, donc j'ai évoqué l'Europe. Il y a également un autre plan qui s'appelle Horizon 2020 qui comprend l'obligation d'assurer des publications qui sont issues de programmes financés par l'Europe. Alors en 2020, tous les plans vont être en libre accès, les publications faites dans un film. Là, j'ai récupéré en fait ce slide sur le site de l'université, de la bibliothèque Pierre et Marie Curie, d'informations sur le libre accès. Donc, je vous encourage à aller consulter. Donc là, vous voyez le schéma. En fait, vous publiez un article. Soit vous le soumettez dans une revue qui n'est pas en libre accès. Et dans ce cas-là, vous le déposez dans une archive ouverte. Alors là, j'ai mis HAL, bien évidemment, puisque c'est l'archive que nous développons, mais ça peut être dans une autre archive institutionnelle. Les métadonnées décrivant le document vont être directement accessibles immédiatement. Et s'il y a un embargo qui est mis en place, normalement, on voit qu'en effet, les éditeurs ne sont pas toujours conformes avec cette demande-là. Normalement, le texte intégral devra être accessible dans un délai de 6 mois maximum. Donc ça, c'est Horizon. Vous avez publié votre Gold, donc en open access. Alors, moi, je voudrais quand même ajouter une petite précision. Dans le modèle établi, en fait, dans le... Normalement, des revues qui sont en libre accès et qui ne veulent pas dire forcément auteur-payeur. Ensuite, on est libre d'imaginer d'autres modèles économiques. Et là aussi, c'est un petit tour de passe-passe fait par les éditeurs en disant, voilà, mais c'est auteur-payeur. On peut imaginer d'autres modes de financement. Donc je tiens quand même à rappeler ça, qu'il y a un petit glissement sur la notion de...
Je voudrais faire juste, semble important à ce stade. Effectivement, à l'origine, le Gold ne voulait pas systématiquement dire auteur-payeur, mais ça a été complètement manipulé par les publishers, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, Gold veut dire autre chose. Aujourd'hui, même open access, dans le grand public, les gens qui ne connaissent pas les détails, ils pensent que ça veut dire auteur-payeur. Et c'est pour ça que nous, peut-être... On a introduit en mai 2012 la notion de Diamond Open Access pour justement montrer qu'il faut distinguer, si maintenant Gold ça veut dire auteur-payeur, il faut introduire une nouvelle terminologie pour dire non, l'auteur n'est pas systématique, ne doit pas payer, je veux dire c'est de l'argent public, c'est pas à l'auteur de payer, c'est lui qui fait tout le travail. Donc voilà, c'était ça la raison. C'est des raisons. En fait, il faut savoir, il y a une sorte de guerre sur la terminologie. Hein. C'est de bonne guerre. Et eux, ils ont un lobbying absolument gigantesque et nous cherchent. On est payé pour faire de la recherche, pas faire du lobbying.
Tout à fait. Et dernier aspect, donc dans le cadre en fait de la diffusion et de la politique européenne, une plateforme a été développée. Dans le cadre du projet Open Air, en fait, demandant aux chercheurs de déposer leurs publications dans une archive institutionnelle, publications financées par des financements européens. Cette plateforme ne fonctionne que dans le cas où les chercheurs sont dans une institution qui n'a pas d'archives européennes. Or, en France, par le jeu de la centralisation, soit une institution a son archive, comme par exemple l'OATAO pour l'INP de Toulouse, par exemple, dans ce cas-là, le chercheur dépose la publication dans son archive institutionnelle, d'archives spécifiques, il dépose dans HAL, et ensuite, Open Air viendra moissonner HAL, OATAO, afin que les publications soient bien référencées aussi au niveau européen. Voilà, donc ça c'était une petite précision sur les manips pour diffuser la politique européenne. Et d'ailleurs, là je vous ai mis un extrait de la fiche que vous avez à remplir dans HAL, où vous pouvez tout à fait retrouver le numéro en fait de le remplir dans la notice. À partir de là, vous avez toutes les informations qui vont être ajoutées. Donc on met en place aussi des outils qui facilitent aussi ces demandes-là. Alors quand même, parler un peu plus de HAL, je voudrais juste vous parler en quelques mots du CCSD, Centre pour la communication scientifique directe, qui a été créé en 2000. Donc là, on voyait bien dans la ligne de temps que tu as fait la création du CCSD. Cette unité du CNRS a été créée, qui a voulu mettre en place une archive sur le modèle d'archive. Et la direction du CNRS a décidé en fait de créer une unité spécialement dédiée en fait à ce projet-là. La première archive ouverte qui était Fusion des thèses, donc c'est Fusion des thèses, donc c'est elle qui existe toujours. L'année suivante a été créée HAL, qui est en fait donc multidisciplinaire. Toutes les disciplines peuvent déposer, tous les états par le jeu de la mixité peuvent déposer aussi dans cette archive. Et tout type de documents, du moment qu'ils soient publiés ou non, peuvent être déposés dans cette archive. Par la suite, on a développé une autre plateforme qui est une plateforme de gestion et d'organisation de colloques et de conférences, donc scienceconf.org, qui de la conférence, où c'est les communications faites lors des conférences dans l'archive ouverte HAL, mais également cette plateforme permet de créer un site web dédié en fait à cette conférence scientifique. Médial, donc une archive d'images scientifiques. Isidore, nous assurons la maîtrise d'œuvre en fait du métamoteur Isidore. Donc là, ça concerne plus les sciences humaines et sciences sociales. Episcience.org, en fait, qui est une plateforme d'épi-revues. Donc là, on est vraiment dans un département de revues, mais je vous en parlerai un petit peu plus loin. Donc, elle est vraiment une archive ouverte multiforme qui permet à la fois donc, des dépôts multidisciplinaires, mais on va pouvoir, à travers cette plateforme institutionnelle, pour les institutions qui ne veulent pas en fait, prendre en charge, qui veulent simplement assurer tout le travail en fait, de communication, de valorisation, d'information, de formation sur les projets en open access et sur les archives ouvertes. C'est déjà un travail qui est lourd en temps parce qu'il faut travailler avec les chercheurs, avec les doctorants pour les sensibiliser à ces questions-là. Donc en fait, on a plein de d'archives institutionnelles, voire même des collections. Donc là, on est en fait dans un modèle qui échappe aux classifications, dans un modèle d'archives ouvertes qui échappe aux classifications habituelles. Notamment, c'était des garanties et des garanties de pérennité. Il se trouve que nous sommes situés au centre de calcul de l'IN2P3. Donc, en termes de garantie, de pérennité, on ne peut guère rêver mieux. On se retrouve au cœur d'un réseau proposant une haute disponibilité, étant complètement sécurisé, c'est-à-dire que si des électriques, on est dans le même électrique, on est dans le même cas que les hôpitaux, immédiatement il y a un relais. Donc, vraiment, on est extrêmement protégé et puis du coup on a accès à des... Et puis j'évoquais l'idée d'archivage à long terme, donc pour de la sauvegarde de la base de données, enfin des bases de données d'ailleurs, on a une réplication qui est envoyée au CINES, centre d'informatique basé à Montpellier. Et puis également, on a un partenariat avec eux pour mettre en place l'archivage pérenne du support des publications. Donc là, on a fait le choix actuellement de faire évoluer le PDF, donc tous les fichiers déposés. Le PDF, bien qu'étant un format propriétaire, en fait, il est ouvert, on sait le manipuler, on sait le faire évoluer. Donc pour le moment, c'est ce format-là qu'on manipule avec le CINES. On upgrade, on met à niveau, pardon. On met à niveau au fur et à mesure des évolutions, de façon à ce qu'on clique sur le fichier, ouvrir le fichier. C'est vraiment l'enjeu fort du numérique. À ma connaissance, on est la seule archive pour le moment à faire ça, à assurer cet archivage. Le scientifique, donc tout domaine confondu, donc j'inclus dans scientifique les sciences humaines et sciences sociales, qui sont accessibles en texte intégral. Dans ces 310 000, vous avez 56 000 documents liés aux disciplines sciences humaines et sciences sociales. On a 43 000 thèses qui sont accessibles. Donc là aussi, je parle toujours de texte intégral. Il recense plus de 600 000 auteurs. On a plus de 3 000 dépôts par mois. On est de 4 000, voilà, on est en moyenne. Et puis également, comme on a un partenariat avec Archive, on gère le site miroir en fait, de l'archive Archive. Sa publication, il demande ensuite à ce que ce document soit transféré vers Archive. Et donc à partir de Archive et son document est accepté aussi sur Archive. À partir du moment où il est accepté chez nous, Archive l'accepte. Donc ça veut dire qu'en une seule manipulation, le document est à la fois diffusé dans l'archive commune partagée nationale, je ne sais pas trop comment l'appeler, et puis également thématique, par exemple pour un physicien ou un mathématicien, c'est important également d'être visible dans en plus les économistes et puis PubMed, toutes les sciences médicales. Ok, en fait, la possibilité de mettre en place des portails et des collections, vous avez accès à des portails institutionnels, dont le portail, par exemple, de l'Université Pierre et Marie Curie, que Jacques évoquait il y a quelques minutes. Donc actuellement, on a 32 portails d'université, 28 pour les grandes écoles et 23 pour les établissements de recherche. Donc ça, ce sont des portails qui sont complètement adaptés aux besoins, en fait, de l'établissement. J'ajoute par ailleurs que tout à l'heure Pablo a évoqué le besoin également pour les pays en voie de développement d'accéder aux ressources produites par l'ensemble de la communauté internationale, mais c'est non seulement accéder aux ressources, le problème, c'est leur propre production, parce qu'il y a également de la recherche qui est faite dans les pays en voie de développement, et que par exemple on a mis en place une archive ouverte qui est dédiée en fait aux pays d'Afrique noire francophone, à travers un partenariat avec l'agence universitaire. Le besoin aussi de diffuser, et c'est aussi de se mettre au standard international de la recherche. Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement utile, c'est la possibilité de créer. On peut être créé en fait par n'importe qui a un compte dans HAL. Terre extrêmement variée. Alors ça peut être une collection pour un laboratoire, ça peut être une collection pour un projet de recherche. Ça peut être une collection pour une équipe. Enfin, on peut imaginer en fait des collections pour des thèmes extrêmement variés, et c'est bien évidemment extrêmement utilisé parce que c'est très souple et très facile à mettre en place. Alors là, j'arrive à la fin de ma présentation, vous faire voir, prendre une publication et voir comment, avec un seul dépôt dans une archive ouverte, on va arriver en fait à la. Il y a des portails collections extrêmement différents. Donc là, on prend une collection qui est déposée de façon classique, et on voit, alors c'est pas très net, je suis désolée, mais on voit en fait qu'elle est rattachée à différentes sciences de l'homme et de la société, sciences du vivant, et donc avec derrière des disciplines. En fait, on va voir que ce même document, cette même publication, elle va pouvoir être intégrée à l'Institut d'Histoire, de Philosophie des Sciences et Techniques. Donc là, on est vraiment dans une visibilité institutionnelle. Cette publication a été faite par un auteur qui est membre de l'Université Paris 1. Également, via le jeu des tutelles et des co-auteurs, que l'École normale supérieure et égale publication. Donc là, on va se l'approprier et la mettre en avant. De même, l'INSERM va pouvoir l'intégrer dans ses collections. On va pouvoir également mettre en avant les disciplines. Donc, je vous ai dit que cette publication en fait, avait des liens avec les sciences humaines et les sciences sociales. Là aussi, quand on va faire des recherches directement sur un portail dédié aux sciences humaines et sciences sociales, on va pouvoir la retrouver. Et puis donc également la collection philosophie des sciences et des techniques. Donc c'est une façon très souple. Et puis également le cas des collections faites pour un projet ANR. Donc là, c'est qui est rattaché à l'ANR critique. Et la chercheuse de ce projet a créé le site web du projet. Et puis également dans HAL, elle a créé sa collection liée à son projet ANR. Et donc de son site web du projet. Donc là aussi, pour la chercheuse qui est en plus de ça, enfin une jeune chercheuse, c'est extrêmement valorisant. Et quand elle va demander d'autres financements, elle va faciliter en fait, ça risque de jouer quand même dans l'obtention des financements futurs. Alors l'idée quand même première des archives ouvertes, c'est essayer de se centrer sur le chercheur. Ça leur apporte une plus large distribution des publications, que les publications sont plus visibles, plus citées, une dissémination plus rapide. Également, on a essayé d'ajouter sur l'archive ouverte donc des services à forte valeur ajoutée pour les chercheurs, là, Notre liste des publications avec un classement par type de publication, par exemple, par année de publication, avec les critères que l'on veut. Ah, il manque la parenthèse entrante. Et puis également, la possibilité de créer un CV chercheur ou une page web chercheur où on va pouvoir retrouver des informations du type quels sont les co-auteurs avec lesquels je publie le plus, quels sont mes mots-clés préférés, mes thématiques, etc. Enfin, donc, des renseignements aussi plus ciblés. Donc, la création de collections, je vous l'ai présentée. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est un accès aux données, en fait, direct pour les chercheurs. Les chercheurs ont vraiment accès aux données. Sinon, les éditeurs essayent de conserver et de ne pas donner. À partir de HAL, vous avez accès à toutes les données et vous avez accès également à vos statistiques, statistiques de dépôt. Gratuitement, on ne vous demande rien en plus. De toute façon, on ne vous demande rien du tout en termes de frais. Et puis, autre petit plus, les chercheurs en fin d'année ont toujours à remplir les bases administratives pour l'évaluation. Alors au CNRS, il y a la fiche CRAC, il y a également des outils comme Graal pour les universités, il y a RIBAC pour les sciences humaines et sciences sociales. Et donc à partir de HAL, vous pouvez alimenter automatiquement les outils administratifs. Au-dessus des archives ouvertes, on peut créer en fait ce que l'on appelle des épijournaux. Donc, on met en place le projet episcience.org basé sur les archives ouvertes. Donc, l'auteur, au lieu de soumettre son article direct dans une archive ouverte, puis ensuite va se en demandant en fait à ce que les revues qui se créent sur cette plateforme évaluent son article. Donc le comité éditorial va prendre en charge cet article, va choisir des relecteurs de reviewers classiques, hein, comme on le fait chez Elsevier, comme on le fait chez Wiley, comme on le fait partout dans les revues. Il va y avoir donc un jeu d'aller-retour entre les relecteurs et l'auteur. Une fois que le document final aura été accepté par le comité éditorial, après toutes les modifications, la nouvelle version de ce document va être à nouveau déposé comme la V2 sur l'archive ouverte où la première version a été déposée. Et sur le site d'Episcience, on a des liens sur les documents qui sont déposés. Là aussi, on est dans un autre modèle en fait de revue scientifique numérique directement en open access. Donc ça, c'est vraiment juste de démarrer. On a actuellement trois revues qui sont en cours, dont une n'est pas en ligne directement accessible, mais enfin ça y est, il y a déjà six articles qui sont envoyés, donc c'est vraiment là ce qui est en train de se faire. Et l'ouverture officielle en fait, de cette prochaine revue se fera en septembre. Elle est portée par l'INRIA et elle souhaite attendre septembre pour communiquer sur cette nouvelle revue. Alors, en conclusion, je suis là pour vous vendre HAL. HAL, c'est une archive ouverte qui est ouverte. Alors, pourquoi ouverte? Tout simplement parce qu'on a vraiment accès directement aux documents. Il y a très, très peu de documents qui sont sous embargo sur HAL pour des raisons de droit des éditeurs, hein, enfin des publishers. On a entre 2 et 3 % extrêmement peu. Donc, c'est vraiment pour ça que j'insiste sur le fait que HAL est vraiment une archive ouverte. Les archives ouvertes, c'est ça. Les archives ouvertes, c'est que ça permet de favoriser la visibilité en dehors des. Ça permet aussi de visiter de tous les domaines de la recherche. On est vraiment au cœur d'une politique internationale. C'est aussi important que ça soit en termes scientifiques, mais également cette politique autour de l'open access. Et puis, le fait d'avoir fait une archive de ces qualités-là, en fait, ont permis l'interconnexion avec des grandes bases internationales comme Archive, PubMed Central. Et donc, là aussi, c'est un atout pour ça. Et puis, il y a aussi une autre idée qui est extrêmement importante. Sandrine Malotto, c'est une idée qu'elle aborde également. Là, on est bien dans la conservation aussi de la production scientifique comme un patrimoine, mais tout ça en dehors des circuits privés. Et donc cette idée aussi est extrêmement importante. Et quand je parle des circuits privés, je pense aussi aux réseaux sociaux type Research Guest. C'est-à-dire que si on va déposer sa publication sur un réseau social, peut-être qu'on aura des outils, le dépôt sera plus simple et qu'on aura des outils a priori. Mais en même temps, il faut bien savoir que ces réseaux sociaux sont des réseaux qui appartiennent au privé et que donc on n'a aucune garantie sur la suite de ces réseaux. Donc là aussi, méfiance. Et puis donc là, c'était ma conclusion. Là, vous allez trouver en fait toutes les adresses pour déposer, en savoir un peu plus autour de HAL et sur Epicient. Une dernière petite chose quand même en termes de provocation. En face, on a des établissements ou des gouvernements qui essayent de mettre en place des politiques avec notamment des obligations de dépôt. On se rend compte que les un coup d'avance sur nous. Et donc, dans ces cas-là, ils vont aussi définir de nouvelles règles. Et quand on demande, quand une institution demande le dépôt, en fait, on voit que les éditeurs, donc là, c'est Emerald, par exemple, en fait, va demander un embargo politique institutionnelle. Donc là, c'est quand même fou, c'est-à-dire que on met dans une archive ouverte où la direction, l'institution ne demande pas d'obligation de dépôt, l'éditeur accepterait de diffuser, mais quand on est dans le cadre d'une politique institution de dépôt, l'éditeur, le publisher, se permet de dire bah, « dans ce cas-là, non, vous avez droit à un embargo ». Et on retrouve également la même chose sur le site d'Elsevier. Donc là, c'est une capture d'écran et vous avez en dessous l'adresse d'Elsevier. Et donc, moi, je conclue, en fait, sur ce slide-là.